Alors, pendant de longues années, Job a eu de la brioche, hein. Il a eu du pain, mais du pain en raisin, du pain aux olives, du pain avec du sucre par-dessus. Et c'est le Seigneur qui lui donnait ce pain-là, n'est-ce pas? Puis voilà que le Seigneur a permis l'épreuve. Et tous ces pains qui faisaient au quotidien le plaisir de Job, sa joie et sa reconnaissance envers Dieu, ben, il a fait place à du pain sec. Et Job l'exprime au chapitre 6. Job, au chapitre 6, il en vient à dire, alors je cherche Job 6, au verset 7, ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Voilà. Aujourd'hui, eh ben, il en est là. Exit. Les bons pains savoureux d'autrefois. Il a maintenant, on partage une nourriture douloureuse, dégoûtante, dit-il. Il aimerait bien ne pas la toucher, mais finalement il n'a que ça. Et on se dit, mais où est passé Dieu dans tout ça? Et l'on arrive au chapitre 42. Job 42. Où il dit à Dieu, au verset 5, Job 42, 5, et c'est la conclusion des paroles de Job. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Job s'est approché de Dieu et a goûté Dieu. Et il a fait l'expérience de Dieu, une expérience suffisante pour lui suffire, voilà. Pour lui suffire, même si la santé ne revient pas, même si la richesse ne revient pas, même si les pains aux olives ne reviennent pas, il a vu le Seigneur. Autrefois, son oreille en avait bien entendu parler, mais maintenant, dit-il, mon œil t'a vu. Et c'est plus précieux et c'est suffisant. Alors, on va revenir aujourd'hui sur toute cette expérience, mais j'aimerais que nous nous interrogions. Et pour commencer, j'aimerais vous donner un petit aperçu qui va nous aider à comprendre. Depuis plusieurs années en Chine, le gouvernement développe un système qu'il appelle le crédit social. Et le crédit social consiste à donner un capital point aux Chinois, qui commence avec 1000 points, Et puis à chaque fois qu'ils vont faire une bonne action, on va leur créditer 10 points, 20 points. Et puis à chaque fois qu'ils vont faire une incivilité ou quelque chose de plus important, ils vont perdre des points. Et donc, les habitants ont donc une note finalement. Et en fonction de cela, eh bien, on va accéder à des récompenses ou à des facilités. Vous aurez plus vite, vous aurez droit à un crédit à meilleur taux, vous aurez le droit à être plus rapidement à une place en crèche ou à une place à l'hôpital, ou qu'est-ce qu'ils disent d'autre comme chose, je trouve, mais l'article était long, hein. J'ai copié l'article, mais il faisait 7 pages quand même, un article de presse. Ah oui, voilà, il y en a un qui dit, par exemple, c'est motivant, grâce à ma note, je peux emprunter des livres à la bibliothèque sans laisser de caution. Youpi! Là où je travaille, centrale nucléaire, pour être recruté, il faut avoir un très bon crédit. Alors, il y en a, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Allez, je vous lis. Il s'appelle le Ximujia. Et il est content parce qu'en 2014, il a obtenu la plaque de la famille au crédit exemplaire sur sa maison. Voilà. Et il dit, nous sommes les premiers à l'avoir eu. Et après, il dit, condition préalable, ne pas avoir de dette. Mais ça ne suffit pas. En plus, il faut être sincèrement honnête, aussi bien dans ses paroles que dans ses actes, et obéir au Parti communiste en toute chose. Par exemple, il faut aider les plus démunis. Ce qui rapporte le plus, ça c'est ma pépite, ce qui rapporte le plus, c'est d'aider les handicapés. Au village, on n'en avait qu'un. On lui faisait les courses, la cuisine, le ménage, mais il est mort l'année dernière. Mais ça rapporte le plus, c'est d'aider les handicapés, tu vois. A contrario, quand tu perds des points, parce que t'as pas. Alors, vous savez qu'ils ont la reconnaissance faciale, y compris dans les toilettes, pour savoir si vous tirez la chasse, etc. Donc, à chaque fois, vous perdez des points. Si tu traverses un feu rouge, enfin, voilà, il y a tout un système de surveillance, hein. La Chine, c'est le pays le plus avancé dans la reconnaissance faciale, dans le nombre de caméras, Donc c'est un système assez particulier. Et donc, vous arrivez sur une blacklist. Vous êtes blacklisté. Et donc là, ben, vous n'avez plus accès à certains emplois. Vous n'avez plus le droit de prendre l'avion. Vous n'avez plus le droit de prendre le train. C'est compliqué d'obtenir des crédits. Et puis, tout simplement, on vous met la honte. Par exemple, c'est pas mal ça. Tu traverses au feu rouge. T'attends pas le feu vert piéton, si tu traverses, alors reconnaissance faciale, on met ton visage en grand écran sur tous les grands écrans de la ville pour te bien te mettre la honte. Ah, toi, t'as. Non, c'est intéressant, c'est pas mal, hein, j'aime bien, hein. C'est marrant. Ou pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je recherche dans l'article. Voilà. Par le crédit social, le pays tente d'imposer un sens moral à la société entière. Intéressant. Le document officiel du Conseil d'affaires d'État écrit noir sur blanc. Les gens de confiance peuvent marcher tranquillement sous les cieux. Ceux qui ne sont pas dignes de confiance ne peuvent pas faire un seul pas. Alors là, l'idée, c'est donc d'avoir des citoyens avec un comportement le meilleur possible pour enlever toutes les incivilités. Et donc finalement, on met en place un système où ben, si tu continues dans les incivilités, ben, la société te le fera payer. Hein. Ça ne sera pas de la prison quelque part ou quoi, mais tu vas le payer. Et puis par contre, 20 points, donc si tu donnes ton sang, donc le don du sang, c'est 20 points. Voilà. Et il y a toute une liste de bonnes actions à faire. Par exemple, ils disent aussi 10 points si tu fais le service le matin à l'école, c'est pour faire traverser la route aux enfants. Voilà. Donc, on veut t'encourager à faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, en te récompensant. Bon. Alors ça nous pose une grande question. Est-ce que le bâton et la carotte, est-ce que le fait de sanctionner et châtier le mal et de récompenser le bien, est-ce que ça donne le sens moral? C'est-à-dire, est-ce que ça change le cœur? Et ça, c'est toute la question. Est-ce que tu fais le bien parce que c'est bien? C'est tout. Ou est-ce que tu fais le bien parce que tu y gagnes? Et c'était toute la question de Satan à propos de Job. Est-ce de manière désintéressée que Job sert Dieu? On arrive à la période de Noël. Papa Noël, vous le savez tous, il récompense les petits-enfants qui sont sages. Hein? Et imaginez un enfant qui il se dit, cette année, je vais être vachement sage comme ça, Papa Noël, il m'apportera vraiment une belle récompense dont je rêve. Et il y croit. Et il se... Ah non, il s'oblige à être sage et il réussit. Puis à Noël, ben il a un cadeau qui le déçoit. À votre avis, est-ce que l'année qui va suivre, est-ce que vous pensez qu'il va être motivé pour être aussi sage qu'il a été l'année d'avant? Peut-être qu'il a reçu une paire de chaussettes à Noël. Et il se dit tout ça pour ça? Ouais, c'est bon. La perspective d'une récompense n'a pas changé son sens moral. Il n'était pas devenu sage parce que c'était bien d'être sage. Et parce que son cœur approuvait le bien fondé de la chose, et dire, mais être sage, c'est la bonne chose à faire. Et donc, ça pose pour nous cette même question, et c'est pour Job le centre de là où Dieu va le faire rajouter à son jardin moral une belle vertu, qui est de choisir, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, en dépit de la souffrance, choisir le bien, juste parce que c'est bien. Et nous lisons donc en Job 35, un passage à ce propos. Et ce matin, on va donc parler aussi, bien sûr, de récompenses, de promesses. Parce que néanmoins, nous allons voir dans la fin de vie de Job qu'une fois cette étape passée, Dieu va le couvrir de bénédictions, et va lui donner le double de tout ce qu'il avait. Mais revenons donc au chapitre 35, Job 35, verset 2. Tiens. Élie reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Dis à toi que je vais répondre, à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Il dit, voilà, nous on est sur la terre en bas, et puis là-haut il y a le ciel et il y a Dieu. Et il dit, regarde bien maintenant. Et au verset 7, il lui dit, non, au verset 6, si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Là, il est en train de dire, attends, attends, attends. Quand tu fais ce qui est bien, ne sois pas en train de croire que tu as fait un cadeau à Dieu, que tu as fait un truc que Dieu, ça lui a... Il a reçu quelque chose de ta main, c'est... Et puis ne pense pas non plus que quand tu pêches, tu lui as enlevé, tu lui as fait perdre quelque chose. Alors, vous savez, il y a des films de science-fiction, des trucs comme ça, où vous avez un grand méchant, par exemple. Et le grand méchant, à chaque fois que des gens vont commettre du mal, ça fait une sorte de puissance maléfique qui vient augmenter sa propre puissance maléfique. Vous voyez un peu le style de film, un petit peu comme ça, Adrien et Marinette, c'est dans ce style-là, Ladybug et tout ça aussi. Voilà, et finalement, le méchant renforce son pouvoir, il devient de plus en plus prospère, entre guillemets, plus les gens font du mal, et puis plus ça lui met du crédit sur sa... Et voilà. Et puis, à contrario, vous auriez le gentil qui lui, il cherche à des gens qui fassent du bien pour le faire remonter dans les sondages, vous voyez. Allez, les gens, faites du bien, parce que là, je perds de la force, je perds de la force. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est que dans les films. Dieu est Dieu et il le restera. Il est au-dessus de tout. Et on ne lui enlève rien quand on pêche. On ne lui donne rien quand on est juste. Et Élie rappelle à Job. Et il dit, mais tu sais, quand tu fais du mal, ben c'est à ton semblable que tu nuis, ça c'est sûr. Quand tu fais mal, tu fais du mal, et tu fais du mal à tes semblables, aux êtres humains qui t'entourent et qui sont là. Et quand tu fais du bien, tu fais du bien à tes semblables. Et donc, il lui dit, quand tu dis à quoi me sert-il que... Que me revient-il de ne pas pécher, comme si Dieu, il... Vous savez, c'est comme le chinois. C'était dans une partie de l'article. Le chinois, il va donner son sang. Puis un mois plus tard, il s'aperçoit qu'on lui a pas crédité les 20 points. Tu vois. Ouais, alors, quoi, ça se fait. J'ai donné mon sang. Alors là, vous êtes prompt, là, j'ai traversé la rue, j'ai eu moins 10, hein, comme ça, mais alors vous êtes rapide pour m'enlever des points et pour les remettre. Oui. Et là, c'est un petit peu ça, c'est c'est quoi cette histoire? Alors moi, je fais ce qui est bien, je suis juste, je marche selon Dieu, tout ça, puis finalement, il m'arrive toute cette misère, et tout ce malheur, et toute cette souffrance. Oh. Et donc, au chapitre immédiatement suivant, Job 36, on l'avait déjà lu, au verset 18, Élie continue en lui disant que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Oui, tu es irrité, oui, la souffrance te cause, ça te chatouille, ça te gratte, ça te démange, ça c'est sûr. Et que cette irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Verset 21, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Alors, Dieu est en train d'apprendre à Job quelque chose qu'il n'a pas encore appris. Il n'y a pas de problème avec ça. Tant que vous n'avez jamais eu besoin d'obéir à quelqu'un, ben vous n'avez pas pu ajouter à votre jardin spirituel et moral la vertu de l'obéissance. On ne peut pas dire que vous avez dans votre jardin moral que Dieu cultive l'obéissance tant que finalement vous n'avez jamais reçu une injonction contraignante qui vous amène à un combat, une tentation de désobéir. Mais le jour où cette occasion se présente, l'occasion d'ajouter l'obéissance au panel des vertus que Dieu façonne, cultive chez ses enfants, l'occasion est là. Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Mais si jamais vous n'avez eu d'ennemi qui vous en colle une sur la joue droite, la paix n'est pas encore une vertu, une qualité spirituelle que vous avez dans votre sac. Il ne fait pas partie de votre bagage et de votre héritage encore. Il n'y a pas de reproche là-dedans, c'est juste que personne ne vous en a collé une. Vous n'avez pas eu l'occasion de développer ça. Il arrive du coup que Dieu permette à un moment que surgisse un ennemi qui vous en colle une. Et là, c'est le temps que Dieu permet, suscite, pour dire, tiens, je crois qu'il est temps. Je crois que c'est, j'aimerais bien rajouter ça au caractère de mon fils, de ma fille. Je vais le façonner. Et il permet que surgisse cet ennemi. Et évidemment, hop, on reçoit l'abeille. Hein. On est un peu sonné. Hein. Il y a toujours un temps de combat et l'épreuve est une tentation. Le mot grec est le même. Parce qu'avec l'épreuve, ben, la tentation de... Eh ben de répondre, de rendre la même gifle qu'on vient de recevoir, c'est là, on est un peu sonné, on dit qu'est-ce que je fais, il doit y avoir une victoire sur cette tentation. Et lorsque la victoire est là, alors on peut dire que on vient d'ajouter à ce jardin des vertus que le Seigneur cultive en chacun de nous, parce qu'il a décidé de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, eh bien, il va permettre des occasions pour des victoires. Alors, quelle chose Dieu est-il en train de vouloir ajouter en ce moment à votre jardin? Ça, je crois que c'est une question qu'on a besoin de se poser en ce moment. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir rajouter? Que je n'ai pas encore. Et on n'est pas là dans le reproche, Job était un homme parfait, est-il dit. Parfait! Après, il va être plus que parfait. C'est-à-dire que Dieu va rajouter encore quelque chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir rajouter dans ma vie à moi? Alors évidemment, pour nous, ça ne se passe pas toujours comme pour Job, hein. Lui, il a été mis en garde. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance qu'il dispose. Eh bien, nous, dans le combat et la tentation, il nous arrive bien souvent d'échouer à la première tentative, puis à la deuxième, puis à la troisième. Tu l'as vu, celle-là? Ouais. Tu crois que je vais me laisser taper sur la joue droite et tendre la gauche? Même pas en rêve. Oh, mais Dieu continuera de susciter des occasions jusqu'à ce que le travail intérieur du Saint-Esprit aboutisse et qu'on puisse tendre l'autre joue. C'est un exemple, ça peut être dans un autre domaine. Évidemment, là où le Seigneur veut façonner en nous quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ. Et en ça, le Seigneur est fidèle et le Seigneur persévère. Et il voit nos chutes, il voit nos défaillances, il voit toutes les fois où on a perdu la partie, on a perdu la bataille. Mais perdre des batailles, ce n'est pas perdre la guerre. Et le Seigneur veut nous conduire vers la libération, vers la victoire. Et vers le fait de pouvoir ajouter une perle au collier. Un diamant à la couronne. Prenez l'exemple que vous voulez, ce qui vous parle le plus. Une fleur à votre jardin. Mais il veut nous rendre semblables à Jésus-Christ et il va développer ces choses-là. C'est ce qu'il a fait avec Job. Et effectivement, en tant qu'humain pécheur, ben le fait qu'une chose soit juste et le fait qu'une chose soit bonne, ben c'est hélas pas suffisant en soi-même pour que je la choisisse et pour que je la pratique. En Romains 7, verset 18, Paul dit « Le bien, je le sais, n'habite pas en moi. Je le veux, mais je ne le pratique pas. » Voilà. Et effectivement, ce n'est pas parce que nous savons qu'une chose est bonne que c'est une raison suffisante en elle-même pour qu'on puisse juste la choisir et la pratiquer. Et c'est ça que Dieu va vouloir travailler, pour qu'on puisse avoir la victoire et choisir ce qui est bien, parce que c'est bien. C'est tout. Et pas parce que j'aurai une grosse récompense à Noël. Et ça, c'est toute la question. Est-ce que Dieu travaille avec l'être humain en système de bâton-carotte? Ben non. Dieu, il ne fait pas comme le système chinois. Alors, le système chinois, après, on dit ce qu'on veut. Là, ce sont les Chinois, ils sont parfois un peu extrémistes, mais de toute façon, tout système d'une nation a à un moment le bâton et la carotte. Et certainement que le système chinois réussit à faire adopter aux gens des comportements meilleurs. Pas un cœur meilleur, mais des comportements meilleurs. Un dressage, quoi. Ça n'amène pas les gens à choisir des comportements bons parce que ce sont des bons comportements. Mais par contre, Dieu veut faire différemment avec nous. Dieu ne veut pas juste obtenir un comportement de notre part. Ça, c'est la loi et le légalisme, et la force de la loi et le légalisme ne parviendra jamais à changer un cœur et à nous faire aimer le bien parce que c'est bien, et choisir le bien parce que ça se suffit en soi. et aimer Dieu pour qui il est. Et Dieu ne va pas travailler de cette même manière. Et pourtant, c'était un petit peu la théorie des amis de Job. La théorie des amis de Job, c'est que le méchant est puni et que le bon est récompensé. C'est le système chinois, quoi. Et ils pensaient, Dieu fait pareil. Si tu es droit dans ta vie, juste dans ta vie, tu vas avoir tes récoltes prospérer, tu vas avoir une amoureuse qui va arriver, tu vas avoir des enfants en bonne santé, tu vas avoir des amis fidèles et sincères. Mais par contre, si tu dévies, tu vas voir ton crédit point, il va chuter là. Et tu ne sois pas étonné si tu as un trou dans ta toiture. Hein. Ne sois pas étonné si ton fils se fait piquer par un serpent. Et puis, crédit point. Hein. Voilà. En gros, c'est le langage des amis de Job. C'est leur équation. Et Job leur dit, mais attendez les gars, vous avez juste à ouvrir les yeux pour la vie, sur la vie qu'on a, pour bien voir que ça marche pas comme ça. Il dit, moi j'ai vu des gens justes qui galèrent, et puis j'ai vu des vrais méchants, que tout le monde sait qu'ils sont vraiment méchants, et qui prospèrent. Vous n'en avez pas vu des comme ça aussi? Voilà. Il dit alors, ton équation système chinois chez Dieu, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais pourquoi? Parce que si Dieu mettait en place ce système, jamais les gens ne l'aimeraient pour qui il est, ni n'aimeraient le bien parce que c'est bien et que ça se suffit en soi. On serait dans un calcul permanent de recettes et pertes. Alors là, je vais rajouter des points à mon crédit. 3 fois par semaine, je me fais prendre le sang. Eh bien, je vais aider les handicapés. Mais si les points disparaissent, je vais quand même continuer d'aider les handicapés. Pas sûr que le système chinois parvienne à ça. Par contre, le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Oui. Amen. Et c'est ça que tu veux. Et pour cela, les choses se saisissent par la foi. Et nous arrivons à la question des récompenses. Nous arrivons à la question de la rémunération. Et la parole nous y invite. Nous voyons la fin de la vie de Job, Job 42. Au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et manger avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, la seconde celui de Ketsa et la troisième celui de Kerenapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération et Job mourut âgé et rassasié de jours. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine de lire cela? Eh bien parce que la seule et unique fois où il est parlé de Job dans le Nouveau Testament, ben allons-y, c'est en Jacques. Épître de Jacques au chapitre 5. Jacques 5, au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend prends le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà, la seule fois où le Nouveau Testament nous parle de Job, c'est pour nous dire, prenez comme modèle de souffrance et de patience les prophètes. Espérez, patientez jusqu'à l'avènement du Seigneur, de même que le laboureur, il attend les pluies et il attend que la terre recevant les pluies puisse donner enfin le précieux fruit de la terre. Vous aussi, patientez, attendez, supportez la parousie jusqu'à la parousie du Seigneur. La parousie, l'apparition, la venue. Quand le Seigneur, il arrive. Et je pense que vous avez tous fait l'expérience, étant enfant ou adulte, d'attendre quelqu'un. Moi, souvent, mes filles, elles m'attendent que je vienne les chercher au collège. Ben, des fois, elles peuvent attendre, hein, je vous dis. Hein. Et vous êtes là, vous en avez marre, et c'est quand qu'il arrive. Je sais qu'il doit arriver. Son arrivée est imminente. Enfin, en attendant, j'attends. Puis il pleut. L'autre jour, c'était ça. Il pleuvait. Et quand est-ce qu'on ça va surgir et arriver? Là, c'est la même chose. Cette arrivée qui... Ah! Seigneur arrive. Seigneur arrive. Il revient. Il est là avec gloire. Et mon attente est finie. Et mon épreuve et ma souffrance et voilà le précieux fruit. Et il prend comme exemple la patience de Job et il pointe du doigt sur la fin que le Seigneur lui accorda. Alors, en disant cela, est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, soyez patients et je vous garantis que vous aurez santé, prospérité, amour, amitié et argent, prospérité. J'en ai oublié un, tiens, crois bien. Qu'est-ce qu'on a mis? Ouais, santé. Je sais plus, il faut que je relise mes notes. Mais, ah oui, famille. Voilà, famille. La famille. La famille. Mais, attention, c'est exactement ce qui se passe avec Job. Santé retrouvée. Oui? Prospérité matérielle retrouvée. Oui? Famille. La famille. Et quand, vous savez, quand on demande aux gens qu'est-ce qui est le plus précieux dans la vie, etc., ils vont vous dire la santé, la famille, bon, les sous en dernier, mais quand même pas mal. Il faut toujours le clin d'œil en dernier, mais tu parles. Bon, bref. Et on fait la liste des choses. Et puis avoir des amis, être entouré, parce que quand tu es seul dans la vie, en fait, ça sert à rien. T'as de l'argent, t'as de la santé, mais t'as personne autour de toi dans ta vie. En fait, ça ne comble pas. On a besoin de relations valorisantes et précieuses. Oui. Ben là, avec Job, on dit, mais il a retrouvé tout ça. Ah. Est-ce que ça veut dire que nous, chrétiens, on peut compter sur le fait qu'à l'issue de notre épreuve, de notre souffrance, d'un temps, le Seigneur va nous donner tout ça? Là, on est sur une question épineuse. Hein. Bon, pour moi, la réponse est non. Hein. Mais on va redire quand même les choses. D'abord, Dieu n'a pas pour objectif de nous priver de tout. Et ça, je crois qu'il faut le dire et le redire. Le texte de Jacques nous dit que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, et il le reste. Et si c'est utile, si c'est le Seigneur ne s'abstiendra pas de compassion et de miséricorde. Et bien souvent, il déverse sur nous un bienfait matériel. Il déverse sur nous une guérison ou de la santé. Il déverse sur nous une relation bienfaisante, une amitié, l'amour. Il déverse sur nous des liens familiaux. Bien souvent, le Seigneur nous fait des cadeaux, nous donne des bénédictions, parce que son but n'est pas, absolument pas, de nous priver de tout. Ce qu'il y avait dans la philosophie grecque, hein, l'ascétisme, le fait d'être dépouillé de tout, de n'avoir aucune passion, de n'aimer rien, de s'attacher à rien, comme ça rien ne nous touche et nous sommes impassibles. Hein, impassibles, passion. C'est-à-dire qu'on est détaché de tout, et des gens d'ailleurs, et des gens. C'est pas ça la philosophie de Dieu. Il n'est pas un Dieu qui a pour objectif le dénuement le plus complet, de nous priver de tout. Mais il peut le faire. Mais il peut le faire aussi. Dieu n'est pas non plus un Dieu qui ne nous encouragera pas. Il sait le combat, il sait l'effort, il est un Dieu qui veut nous soutenir, nous encourager. Il va donner des encouragements. Il va donner des récompenses qui encouragent. Non pas dans l'objectif du bâton et de la carotte, mais réellement dans celui de soutenir un cœur qui a juste besoin d'encouragement pour persévérer, je te dirais, continuer. Néanmoins, dans notre texte, nous voyons qu'il nous est dit d'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à sa parousie, jusqu'à ce qu'il revienne. Et on peut se dire, ah, mais cette parousie, ce retour, le retour que les chrétiens attendent, où le Seigneur reviendra en gloire, oui. Et nous voyons que Dieu, à aucun moment, ne nous fait des promesses ferme et inébranlable quant à des bénédictions terrestres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en fait pas. Mais il n'y a absolument aucune garantie de bénédictions terrestres, santé, etc. Par contre, il y a des garanties et des promesses sur les bénédictions éternelles. Nous allons regarder notre texte. D'abord, en Hébreux 11, verset 6, on va beaucoup lire l'épître aux Hébreux, là. Hébreux. Hébreux 11. Au verset 6, il dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherche. » Est-ce que Dieu est le rémunérateur? Amen. Oui. Dieu est le rémunérateur. Il va donner la récompense, il va, le terme même là, c'est payer son salaire, celui qui paye le salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais voyons donc tout ce chapitre 11 qui nous parle du fait que Dieu est le rémunérateur. Prenons Abraham. Ah, il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, verset 8. Et il y vient par la foi. Mais le verset 10 nous dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il va juste vivre sous des tentes. Que dire de Moïse? Alors évidemment, avant de terminer sur Abraham, lisons le verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Là, on voit que la promesse et l'espérance et l'héritage n'est pas tant dans la cité terrestre que dans la meilleure, celle qui est pour l'éternité. Moïse, ça va être la même chose. Au verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors vous allez dire, ben finalement, il a été mal payé, Moïse, il a même pas vu. Enfin, il a vu Canaan de loin, tiens. Mais enfin, il a eu sur le dos un peuple odieux. Je ne vois pas trop où est la rémunération. Il aurait mieux fait de rester en Égypte, dans le palais, avec les mains moussants et puis les servants. Hein. Ouais, mais il a regardé l'opprobre de Christ. Il voyait jusqu'à l'opprobre de Christ. Il voyait plus loin. Et il avait les yeux fixés sur la rémunération, non pas celle de la terre, mais celle de la cité céleste. Et le verset 13 est capital. Il nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas des bénédictions terrestres, inébranlables, là, qu'ils ont reçues. Mais ils en ont eu un avant-goût parfois, un aperçu parfois. Ils les ont vus saluer de loin. Parfois, ils en ont goûté les prémices à certains moments, comme lorsque Dieu nous donne santé, ou nous donne une famille, ou nous donne... Mais ce ne sont que des prémices, et on voit au-delà, et on salue de loin des choses promises, mais qui sont promises pour l'éternité. Et ils reconnaissent qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Il y a cette prise de conscience et cette décision de dire, mais moi sur la terre, je suis un voyageur. Et puisque cette terre, je n'y suis qu'un voyageur et que j'y suis étranger, ce n'est pas tant la bénédiction terrestre que je recherche, mais celle où j'ai une citoyenneté permanente et éternelle. Alors, oui, nous pouvons dire que d'une certaine façon, il y a des parousies parfois, des délivrances, où Dieu intervient, où il arrive pour délivrer, pour mettre un terme à l'épreuve. Des prémices, j'ai envie de dire, par anticipation de la parousie, où il reviendra en gloire. On le voit en Hébreux 11, au verset 32, « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait ?» Ben oui, le temps avance, la prédication aussi, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. Trop bien. On se dit, moi, ça, j'en veux tous les jours. Oui, vivons dans ses promesses, frères et sœurs, par la foi, on va avoir tout ça. Ah, attends, faut continuer le verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, ça c'est Jérémie, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Ah là, ça calme, hein? Ben oui. Parce que le Seigneur n'a pas garanti des délivrances et des bénédictions terrestres. Dans sa grâce, dans son amour, parce qu'il est plein de miséricorde et de compassion, on peut toujours compter. On peut toujours l'attendre. Mais sa venue, c'est la foi qui va la saisir. Vous savez, le Seigneur n'a jamais abandonné les siens. Mais si nous pensons que sa venue est égale, est équivalente à bénédiction terrestre, guérison physique, délivrance des ennemis, etc., on fait fausse route. Sa venue, sa parousie, le fait que le Seigneur intervient et arrive, sa miséricorde et sa compassion, beaucoup, très souvent, se manifestent terrestrement, mais elles se manifestent dans le cœur. Je pense à ce cantique des ailes de la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. En dépit des difficultés et des souffrances. Vous savez, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et en fait, ces promesses se saisissent par la foi. Et vous allez dire, mais quelles promesses, quelles récompenses, de quelle nature sont-elles? Sont-elles de nature terrestre? Non, il y a mieux. On pense aux martyrs de l'islam, hein, à qui on promet je ne sais pas combien de vierges là-haut, et puis tout ça, vous savez. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des choses qui satisfont la chair. Moi, je veux des récompenses, je suis un homme fait de chair et d'os, et ben concrètement, je veux des récompenses qui me rassasient tel que je suis fait, quoi. Mais les promesses, c'est les récompenses que Dieu a pour les siens, pour l'éternité, ne sont pas d'une nature propre à rassasier la chair, mais elles sont propres à être saisies par la foi dans leur beauté spirituelle. Quelles sont les gloires à venir? Et nous pouvons lire des passages comme Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais de quelle nature? 2 Corinthiens 4, 17, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais de quelle nature? Quelles sont les récompenses dont parle 1 Corinthiens 3? Elles sont pour là-haut. Et elles sont de la nature de là-haut. Et il y a un petit peu ce phénomène qui est que tant que nous sommes attachés aux choses de la terre, les promesses et les récompenses de Dieu nous laissent froid et indifférents. Tant que plus nous sommes charnels et attachés à ce qui rassasie la chair, et plus ces gloires à venir, le poids éternel de gloire... Non, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est être guéri, c'est avoir du pognon, et puis c'est l'amour, quoi. Hein? Oui, non? Hein? Parce que ces choses-là se saisissent, et c'était tout l'enjeu de Job. lorsque je choisis le bien, juste parce que c'est bien. Aimer le bien pour lui-même, et ça se suffit en soi. Aimer Dieu, non pas pour ce qu'il donne, ce qu'il prodigue, mais pour qui il est. Pour qui il est. Et ça se suffit en soi. Et c'est seulement lorsque on passe à cela que là, les promesses et l'héritage à venir et ses gloires à venir commencent à nous émerveiller, commencent à se dire, ça doit être quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit être bien. Connaissant Dieu comme je le connais, ça va pas être de la camelote. Et ça va être bien au-delà de ce qui aujourd'hui, moi, frappe mon regard, satisfait ma chair, un bon repas, un bon verre de vin, et puis à la tranquillité dans ma maison. Et ouais, ça va aller au-delà. Ça va aller au-delà. Mais ça, ça ne peut se saisir que par la foi. C'est ce que Job a saisi, c'est ce que Moïse a saisi, c'est ce qu'Abraham a saisi, et Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui veut nous encourager. Il veut nous encourager par des récompenses. Il veut nous encourager par une gloire éternelle. Et dans sa grâce et sa miséricorde, il arrive bien plus d'une fois que comme Job, nous voyons un bienfait sur cette terre. Et le Seigneur est miséricordieux et compatissant, et il en donnera, et il en donnera encore. Amen. Mais ne nous étonnons pas si certains n'arrivent pas, parce qu'il n'a absolument pas systématisé comme le gouvernement chinois en disant « Attends, ça va, ça fonctionne nickel, pas d'erreur, tu fais du bien, tu as ta récompense, tu fais du mal, tu as ton châtiment. » Non, parce qu'il veut, il veut gagner nos cœurs. Il veut gagner nos cœurs. Il veut développer ce jardin des vertus, de ce caractère précieux et beau qui ressemble à Jésus-Christ dans tel ou tel domaine. Il le développe dans nos vies, à nous qui sommes ses fils et ses filles. Un combat, une épreuve, une tentation vont de pair avec le façonnage de ce caractère, de cette perle de grand prix. Et le Seigneur nous encourage et nous dit, continue, tiens bon, j'ai une récompense et chacun recevra sa récompense. Lâche pas. Mais il veut gagner nos cœurs. Et ces récompenses vont commencer à nous motiver à devenir précieuses pour nous lorsque on acceptera de, comme Job, hein, de faire le bien et de choisir ce qui est bien juste parce que c'est bien et que ça nous suffira d'aimer Dieu parce qu'il est Dieu et pour qui il est et ça nous suffira. Il y a un cap à franchir et le Seigneur veut nous y encourager en sa grâce. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Vous voyez, Job, il avait des muscles comme ça. Hein. C'est pour ça que lui, il a été éprouvé comme ça. Non, mais je suis sérieux. Hein. Il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Mais la gloire, l'émerveillement, que Job a eu de dire maintenant mon œil t'a vu. Ces trois paroles qui sont glissées comme ça, qui ne nous paraissent pas, mais dans son expérience, c'est fondamental, c'est majeur. Ça a transformé son existence, ça a transformé sa vie. Comme Dieu veut transformer la nôtre pour nous métamorphoser, dit le Nouveau Testament, de gloire en gloire. Prions. Seigneur, on veut comprendre que tu as un projet pour notre caractère, pour notre vie. Un projet de bonheur et de joie, parce que ultimement, et quoi qu'il en soit, Seigneur, chaque fois que nous choisissons le mal, nous nous faisons mal, nous avons mal dans notre existence, forcément. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, que le péché, malgré tout son vernis, est quelque chose qui ronge, qui détruit, et que notre ennemi est quelqu'un qui cherche à égorger, à tuer. Et tout au contraire, Seigneur, ce qui est bon, parfait, saint, ultimement et profondément, tu veux nous le rappeler. C'est ce qui fait du bien. C'est ce qui amène dans notre cœur une joie, une paix et des choses inégalables. Et pourtant, Seigneur, nous avons du mal à le réaliser dans notre vie. Mais tu veux nous encourager. Nous voulons ce matin te demander de nous aider à croire dans tes promesses, à saisir tes promesses, à ne pas nous tromper en nous appuyant à tort sur des promesses que tu n'as jamais faites et qui concernent une garantie de bénédiction terrestre. Tout en sachant, Seigneur, que plus qu'à ton tour, tu viens, tu délivres, tu agis avec puissance, avec miracle, et tu fermes la gueule de lion. Tu remportes des victoires. Tu bénis. Mais il arrive aussi, Seigneur, d'être scié, lapidé, vêtu de haillons et errant dans les cavernes. Seigneur, quoi qu'il en soit, tu travailles à l'intérieur de notre cœur pour créer des joyaux, quelque chose de précieux. Et tu as pour nous une promesse, une récompense qui sera pleinement accomplie lors de ton avènement. Seigneur, nous attendons ton retour, nous attendons cette parousie. Et tu nous invites à l'attendre avec la même patience que tous tes prophètes qui ont patienté avec souffrance. Et tu nous invites vraiment à les prendre comme modèle de souffrance et de patience, tout en croyant résolument que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et tu l'es. Mais seule la foi, Seigneur, peut affirmer que nous le voyons tous les jours dans notre vie, non pas forcément par une systématisation de choses matérielles, mais parce que nous le voyons dans notre âme et que c'est plus précieux encore. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour ta patience aussi. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Merci pour cette histoire de Job qui nous encourage, qui nous donne un modèle à suivre et qui nous rappelle que tu es un Dieu plein de miséricorde et de compassion et que ta venue, ta parousie ne tardera pas. Tu es proche. C'est en ton nom que nous prions.